Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Il est à 7h et c'est l'heure du journal de Thibaut Texert. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Faut-il taxer les super profits de crise? Les socialistes le réclament après les bénéfices records de Total Energy à l'heure où le baril de pétrole continue de flamber autour des 125$. Ce matin, il risque de blocage prolongé du détroit d'Ormuz. Un enfant de 10 ans attaqué par des chiens hier dans l'Oise. Ses jours ne sont plus en danger ce matin. Et le PSG qui se tourne vers sa demi-finale de Ligue des Champions. Retour à Munich la semaine prochaine. Ce sera sans Hakimi, blessé.
Le baril de pétrole est en train, en ce moment même, de s'envoler ce matin, au plus haut depuis la guerre en Ukraine.
On est autour des 125$. C'est un record depuis 2022. La situation ne devrait pas s'arranger. Donald Trump évoque la perspective d'un blocus prolongé en Iran de plusieurs mois, avec des conséquences forcément attendues à la pompe dans les jours à venir. La situation profite en tout cas aux pétroliers. C'est le cas de Total Energy qui a engendré des bénéfices records, 5,8 milliards de dollars au premier trimestre de l'année, ne comptant pourtant qu'un seul mois de guerre. Et le sujet agite la classe politique socialiste en tête. Ils ont déposé, Thomas Becker, une proposition de loi pour taxer de manière temporaire les super profits.
Oui, dès l'annonce des profits records de Total, le PS dégaine sa taxe. Une mesure de justice pour le député socialiste Arthur Delaporte, censé rapporter 2 milliards d'euros.
Il faut mettre à profit ces profiteurs de crise pour refinancer les caisses de l'État et pour redistribuer cet argent aux Français qui en ont assez de payer pour les actionnaires de Total.
Devant les sénateurs, le Premier ministre ne ferme pas la porte.
Il faut bien que Total Energy se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer et potentiellement de la manière la plus efficace qui soit, de la manière la plus rapide.
Aussitôt dit, aussitôt confirmé par Total, qui prolongera bien son plafonnement des prix à la pompe, sans préciser pour l'instant le montant exact. Il faut reconnaître que ce blocage est une protection unique au monde, lâche un conseiller de l'exécutif, d'où le mot d'ordre au gouvernement. Pas de Total bashing. Si c'était l'État qui bloquait les prix à ce niveau, ça nous coûterait au moins 500 millions d'euros par mois. Là, c'est Total qui paye, enfonce le même conseiller. Tenu par le déficit, le gouvernement se limite à des aides ciblées, aides qu'il va très certainement devoir prolonger au-delà du mois de mai. Emmanuel Macron a déjà préparé les esprits, affirmant que le contexte géopolitique était hautement incertain.
Et c'est dans ce contexte sur fond de guerre au Moyen-Orient que l'INSEE doit annoncer ce matin la croissance en France au premier trimestre de l'année. La guerre dans les conditions du réel, dernier exercice d'ampleur ce jeudi pour Orion, en présence d'Emmanuel Macron dans l'Aube et dans la Marne. 12 500 militaires sont mobilisés depuis le mois de février dans des opérations fictives visant à simuler une situation de conflit sur le sol français.
Il est 7h03 sur RMC, un enfant de 10 ans hospitalisé dans l'Oise, mordu par deux chiens.
Deux molosses appartenant au voisin du petit garçon souffrant de 5 morsures au bras, aux jambes et au cuir chevelu. Ses jours ne sont plus en danger. Ce matin, ça s'est passé hier en début d'après-midi dans la commune de Russie-Bémont. Amélie Courtet.
L'enfant et trois autres garçons du village jouent dans un petit bois à côté de l'église quand ils croisent deux gros chiens de la race Canet Corso.
Les propriétaires des chiens étaient en train de soigner leur volaille,
décrit le maire François Philippon.
Lorsque les chiens ont échappé à leur surveillance et ont agressé les enfants.
Trois parviennent à se hisser sur les branches d'un arbre, le quatrième n'a pas le temps. Il est gravement blessé, 4 morsures sur les jambes et les bras, une au cuir chevelu. Mais le maire insiste.
Les jours de l'enfant ne sont pas en danger.
On ne s'explique pas ce qui s'est passé, lâche-t-il. L'enfant connaissait les molosses.
Ce ne sont pas des chiens considérés comme dangereux. Ce sont deux chiens qui sont parfaitement dressés.
Reste que l'attaque laisse des traces.
Tout le monde est très affecté. Dans le village, c'est un gros choc. C'est un village où il y a beaucoup d'enfants, donc c'est inquiétant, quoi.
D'après ses derniers échanges avec les parents, l'enfant blessé va être transféré prochainement à l'hôpital d'Amiens au service de chirurgie réparatrice.
On va y revenir sur cette affaire de Canet Corso, deux molosses qui ont attaqué un gamin de 10 ans aux membres, sur le crâne. Inquiétude évidemment pour cet enfant dans la commune, même si ses jours ne seraient plus en danger. On va appeler le vétérinaire Christian Diaz, vétérinaire expert en justice. Ce sera à 7h40 tout à l'heure.
Dans le Rhône, un père de famille de 40 ans a été mis en examen hier pour viol et agression sexuelle sur 34 mineurs, de jeunes enfants, de jeunes garçons âgés de 3 à 9 ans, des copains de ces enfants agressés lors d'anniversaire ou de soirée pyjama organisée au domicile du père de famille entre 2020 et 2024. La réponse de Nicolas Sarkozy à Claude Guéant, l'ancien président, était de retour à la barre une toute dernière fois hier à son procès en appel dans l'affaire présumée du financement libyen de sa campagne en 2007 et n'a pas manqué, Julie Brault, de répondre aux accusations de son ancien bras droit.
Oui, tel un équilibriste, Nicolas Sarkozy campe sur ses positions. Je ne dis pas que Claude Guéant ment, mais sa mémoire a pu évoluer et nous ne partageons pas les mêmes souvenirs, ironise l'ex-chef d'État. Et pourtant, son ancien bras droit est catégorique. Nicolas Sarkozy lui a expressément demandé d'examiner la situation judiciaire d'Abdallah Senoussi, alors numéro 2 du régime libyen, et sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour terrorisme, un point central du dossier, car ce serait justement l'une des contreparties du pacte de corruption présumé établi avec la Libye, mais c'est à se taper la tête contre les murs. Il n'a jamais été question de gracier Senoussi, s'agace finalement Nicolas Sarkozy, qui, une fois de plus au cours de ce procès, lâche son ancien lieutenant.
L'inquiétude du ministère des Affaires étrangères pour les ressortissants français au Mali.
Il serait environ 4000 à qui le Quai d'Orsay recommande de prévoir un départ temporaire dès que possible. En cause, la situation sécuritaire extrêmement volatile sur place en raison d'attaques menées dans plusieurs villes du pays par des groupes djihadistes et Touareg. La capitale, Bamako, est désormais menacée. Elle va tomber, dit d'ailleurs l'un des porte-parole Touareg pour RMC, Marion Gauthier, a pu s'entretenir avec certains Français qui refusent de tout abandonner.
Difficile d'imaginer la capitale malienne tomber aux mains des groupes terroristes pour Laurent. Impensable aussi de quitter le pays. Pour aller où, dit-il ?
Ils nous disent, ok, il faut quitter le pays le plus tôt possible. Ben, ils nous donnent aucune aide spéciale. Bon, moi, tous ceux que je connais n'ont pas l'intention de rentrer pour l'instant, quoi.
Reste l'incertitude alors que les assaillants ont déclaré un blocus autour de Bamako.
Donc, si vraiment ils ont fermé Bamako, c'est sûr que tôt ou tard, la pénurie va se faire ressentir. C'est surtout ça qui nous inquiète. Hein.
Les Touaregs réclament l'indépendance du Nord-Mali. Les djihadistes comptent instaurer la charia. Ils veulent la fin de la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, explique Caroline Roussy. Elle est directrice de recherche à l'IRIS.
La junte au pouvoir a fait exactement ce qu'elle reprochait aux Français, c'est-à-dire qu'elle a investi sur le tout militaire au détriment du développement. Dans certaines zones du Mali, les populations paysannes ont été profondément affectées par la corruption. C'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre ont pu rejoindre les groupes terroristes.
Et si le président malien a reconnu l'extrême gravité de la situation, il assure qu'elle est maîtrisée.
Le Quai d'Orsay qui recommande de prévoir un départ le plus vite possible. Alors sans rapatriement organisé, il y a encore des vols. Je sais pas, vous avez des proches sur place, ça vous inquiète ? Passez-nous un petit coup de fil ce matin au 32-16.
Un défi ce soir pour Strasbourg sur la pelouse du Rayo Vallecano en Espagne, demi-finale aller de Ligue Conférence à vivre sur RMC dès 21h. Il n'y a pas eu de vainqueur hier soir en Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Arsenal, engagé dans le dernier carré de la compétition, un but partout. Et puis mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va devoir se passer d'Achraf Hakimi, blessé. Le défenseur Arthur Perrault ne participera pas aux demi-finales retour de Ligue des Champions la semaine prochaine à Munich.
Oui, c'est un sacré coup dur pour le champion d'Europe en titre. Il va devoir faire sans Achraf Hakimi pour le match retour prévu mercredi prochain en Allemagne. Le défenseur s'est écroulé au sol mardi soir en fin de match au Parc des Princes contre le Bayern Munich avant de terminer la rencontre en marchant. Les examens réalisés hier après-midi ont confirmé une déchirure aux ischio-jambiers. Le joueur marocain sera absent entre 2 semaines et demie et 3 semaines. Selon le PSG, il va rester en soins ces prochaines semaines. Mais en cas de qualification pour la finale, Hakimi devrait être présent. Sa participation cet été à la Coupe du Monde n'est pas en danger. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le Paris Saint-Germain. Le gardien remplaçant Lucas Chevalier s'est blessé à la cuisse droite à l'entraînement. L'international français manquera lui aussi la demi-finale retour de Ligue des Champions.
À retenir enfin la nouvelle performance d'Arthur Fils à 2 semaines de Roland-Garros. Le tennisman français s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid. Ce sera demain face au numéro 1 mondial, Yannick Sinner.